Ce qui est indispensable, c'est la culture technologique à tous les étages, si je peux le dire comme ça. Donc il y a un vrai sujet d'acculturation et de formation des dirigeants.
La technique n'est pas suffisante en soi. Ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir son potentiel de développement, de lutter contre sa propre obsolescence.
Il faut aussi être capable d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on peut apprendre et qu'on veut apprendre tout au long de notre carrière.
Transformation digitale, de la théorie à la pratique. Ce podcast vous est présenté par EM Lyon Business School.
Qu'elle soit digitale ou autre, une transformation s'opère toujours sur plusieurs plans. Au niveau de l'organisation, bien sûr, mais aussi au niveau individuel, comme l'ont montré nos précédents épisodes. Dans ce processus, un thème est central et incontournable, celui des compétences. Quelles compétences pour les experts en transformation digitale? Comment les acquérir? Comment les adapter au contexte et au marché? Et au-delà des compétences, quelle posture, quel savoir-être sont mobilisés dans ce domaine? Nous tenions à aborder ce thème et pour cela, nous avons aujourd'hui trois acteurs de la transformation digitale avec qui nous échangerons dans ce cinquième épisode de ce podcast. Je suis Sylvain Léautier pour EM Lyon Business School. Géraldine Juvin, vous êtes consultante RH et coach au sein du cabinet Formutile. Votre entreprise accompagne les salariés et aussi les élèves dans leur parcours et leur carrière. Vous accompagnez également les entreprises sur les enjeux de structuration, de croissance et de transformation digitale. Et vous avez une expérience professionnelle très riche, DSI adjoint au sein d'une branche de Veolia. Vous avez également évolué dans le secteur pharmaceutique avant d'occuper le poste de CDO, Chief Digital Officer, un poste dont on va parler, à l'Apart Fitness. Et vous avez suivi le certificat transformation digitale des organisations à EM Lyon Business School qui forme les dirigeants et experts à la transformation digitale. Géraldine, bonjour. Quel est votre lien avec la transformation digitale? Quand avez-vous commencé à travailler sur ce sujet?
J'ai commencé à travailler sur le sujet en 2013 quand j'étais DSI adjoint en rentrant par la technologie. Et c'est cette première expérience qui m'a permis d'avoir une vision plus large sur les enjeux business de l'entreprise liés au digital. Et ça m'a mis au contact aussi et surtout de la nécessité de travailler sur la dynamique humaine. Autrement dit, la culture de l'entreprise et l'accompagnement des équipes. Et c'est un sujet qui est resté au cœur de mes activités dans les années qui ont suivi. Et ça m'a permis de mieux comprendre, d'expérimenter et probablement d'affiner mon approche. Et c'est de là, je crois, qu'est né mon désir de monter mon activité.
Très bien. Corinna Cuiban, vous êtes consultante en technologie digitale et émergente à Wavestone, qui est une agence de consulting. Vous avez occupé différents postes dans la transformation digitale et vous avez suivi le master spécialisé transformation digitale, marketing et stratégie à EM Lyon Business School, qui permet en 13 mois de devenir un acteur clé de la transformation digitale. Et vous avez d'ailleurs créé un podcast sur ce sujet. Corinna, comment décririez-vous votre rapport à la transformation digitale? Et bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour et merci de me recevoir déjà ici. Bah, je dirais que mon rapport vraiment à la transformation digitale, c'est de l'apprentissage et continue finalement. De base, j'ai un profil assez marketing et j'ai d'ailleurs travaillé dans une agence qui avait comme cible finalement les experts comptables et qui était une cible très très peu digitalisée. Et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le sujet de la transformation digitale. Parce que je me suis dit, cette profession-là, de base, elle est très peu digitalisée. Il faut faire quelque chose pour les acculturer, finalement, à cette thématique-là. Et d'où l'idée, finalement, du podcast. Et grâce à ce podcast, j'ai commencé à rencontrer énormément de personnes qui étaient passionnantes, qui avaient des métiers très différents et complémentaires entre eux. Et c'est là où je me suis rendu compte, finalement, que la transformation digitale, c'est un sujet qui est extrêmement vaste finalement, d'où mon envie à suivre EM Lyon, la formation d'EM Lyon, et d'où aussi mon envie de découvrir encore plus en ce moment chez Wavestone.
Très bien, merci Corinna. Et enfin, Rémi Longo. Rémi, vous êtes directeur associé chez Grant Alexander en charge du management de transition. Vous avez occupé différents postes de management dans votre carrière et vous avez également suivi le certificat transformation digitale des organisations. Rémi, bonjour.
Bonjour.
Quand êtes-vous tombé dans la marmite de la transformation digitale?
Alors, le management de la transformation des organisations est mon quotidien depuis plusieurs années, à la fois dans des fonctions de management et dans le management de transition. Et aujourd'hui, l'impact du digital, il est de plus en plus perceptible dans les missions de management de transition. Quand on parle d'évolution de business model, de montée en puissance de nouveaux métiers, de digitalisation et automatisation de processus métiers, de l'entreprise étendue. Et effectivement, c'est par ce biais-là que c'est en fonction des besoins des clients que mon rapport au digital a évolué. On voit que toutes les directions traditionnelles aujourd'hui ont intégré une dimension digitale parce que on peut plus être CFO de la même manière aujourd'hui qu'auparavant. On peut pas travailler sur la supply chain si on n'intègre pas une dimension de digital. Et puis, on a aussi une évolution des demandes sur les fonctions technologiques, que ce soit à la fois sur de la direction technique, digitale, e-commerce, et ça a un impact de plus en plus significatif sur l'organisation. Voilà, et donc du coup, c'est par ce biais-là, et c'est aussi pour monter en compétence sur le sujet que j'ai décidé de suivre le certificat TDO de l'OM Lyon.
Très bien, eh bien, merci à vous trois en tout cas de participer à cet échange. Alors pour lancer la discussion sur ce thème des compétences qui est central, on opère souvent la distinction soft skills, hard skills dans le domaine du digital et dans d'autres. On parle beaucoup d'outils et pourtant, Jeff Wiener, qui est CEO de LinkedIn, dit il y a à peu près 2 ans, je crois, ouvrez les guillemets, je crois que sur le long terme, les besoins de développeurs et d'ingénieurs sont surestimés. Littéralement, I think we overrate coding and engineering as a long-term profession. Ce que demandent le plus les recruteurs sont communication écrite, communication orale, compétences en team building et leadership. Alors, la réflexion de Jeff Wiener va au-delà de la transformation digitale, mais quand le président d'un réseau social professionnel qui compte plus de 700 millions de membres évoque les besoins de compétences des recruteurs, on se dit qu'il parle avec des données plutôt solides. Du coup, j'en viens à ma première question qui est destinée à vous trois et pour ouvrir cet échange. Est-ce que l'on surestime les compétences techniques liées à des outils ou à l'opérationnel dans le recrutement et également dans les gestions de compétences par rapport à des soft skills qui seraient plus transversales et pas propres en particulier au domaine du digital?
Je veux bien prendre la parole à ce sujet en fonction de ce qu'on voit, nous, de la part des entreprises. Effectivement, il y a une demande de compétences techniques, et ces compétences techniques, elles sont nécessaires parce que nos clients, ils sont engagés dans des projets de transformation qu'ils doivent accélérer et ils doivent trouver des profils qui soient directement opérationnels. Donc effectivement, la rapidité d'exécution est nécessaire et la maîtrise technique est nécessaire. Mais la technique n'est pas suffisante en soi, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on sait que les technologies seront amenées à évoluer. Aujourd'hui, les enjeux de la cybersécurité, de l'IA notamment, sont relativement importants. Et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir son potentiel de développement, de lutter contre sa propre obsolescence. Et pour bon nombre de professionnels, dont moi, nous n'avons pas été formés durant notre cursus scolaire au digital et puis à la nouvelle organisation que le digital demande. Nous, peut-être ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a des demandes de compétences en matière d'analyse, quand on parle de data scientist par exemple, de compétences techniques quand on parle de développement d'architecture, de compétences en création quand on parle de contenu, content is king, de compétences relationnelles et de compétences en management et en organisation. Je crois qu'il y a un certain nombre de soft skills aujourd'hui à l'ère du digital quand on parle d'agilité, de collaboratif, de créatif, de curiosité, d'empathie et de capacité à la fois à être proactif et technophile. Voilà. Donc voilà ma vision du sujet.
Je dois dire que je suis très d'accord avec Rémi, parce que on a besoin finalement des besoins techniques et opérationnels. Ça, c'est certes, parce qu'on ne peut pas opérer une transformation digitale sans passer finalement par la technologie. Mais à elle toute seule, ces compétences-là, elles sont finalement insuffisantes, selon moi. Je me rends compte finalement. Je me suis rendu compte dans mes études, mais aussi dans mes missions, qu'on a besoin maintenant, on a besoin des personnes qui sont curieuses, qui sont disposées à aller chercher l'information, même si elles sont même s'ils ne savent pas exactement le sujet, s'ils ne le cernent pas au début, qu'ils soient capables de savoir chercher cette information, se la réapproprier finalement et pouvoir travailler avec cette information pour aider l'entreprise à progresser. Et au-delà de cette curiosité-là, il faut aussi être capable d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on peut apprendre et qu'on veut apprendre tout au long de notre carrière. Et je pense que ça, c'est finalement, ça va être l'actualité de notre génération par rapport à d'autres générations. Puisque si avant, la durée d'une compétence, elle était presque sur toute la durée de vie professionnelle d'une personne, bah aujourd'hui, elle est estimée à peu près 5 ans. Et je pense que cette période-là, elle ne va faire que raccourcir, finalement. Donc, voilà, la capacité d'accepter que tout change et qu'on peut apprendre, c'est extrêmement important. Il y a une autre chose qui est difficile à accepter pour soi-même, mais même en entreprise, c'est le fait d'être capable de se dire « bah j'ai une certaine marge à l'erreur ». C'est, selon moi, indispensable parce que si on part dans un projet de transformation et qu'on se dit il faut que tout soit parfait, le plus probable ce qui va arriver c'est que on va faire un projet où on se trompera beaucoup, alors que si on se donne une petite marge de manœuvre, on sait qu'on peut expérimenter au moins.
Et ça, c'est facile à faire, selon toi? On peut se tutoyer peut-être, tous les trois, ce serait peut-être plus...
Oui, bien sûr.
Et convivial. C'est facile, selon toi, de cette culture de l'apprentissage de l'erreur? Enfin, en tout cas, d'accepter l'erreur et de pouvoir capitaliser dessus?
Non, c'est pas facile. C'est un mindset, finalement, à apprendre ou à réapprendre. C'est pas facile d'être, par exemple, dans une organisation qui vend par exemple une prestation de transformation et de dire au client finalement que il est possible que dans notre parcours on fasse des petites erreurs et c'est normal parce que ça fait partie du processus. Ça c'est pas facile à expliquer, mais je pense que au-delà d'expliquer cette chose au client, il faut expliquer que si on passe pas par ces erreurs là, au lieu de faire une petite erreur et après se rendre compte et finalement réitérer sur les bonnes étapes ou bonnes marches, on va arriver à la fin avec un produit ou avec un processus qui ne correspond absolument pas à ce qui s'attendait le client du client ou le client lui-même. Donc finalement, il vaut mieux faire des petites erreurs, s'en rendre compte rapidement, les corriger, plutôt que de faire une grande erreur qui est très difficilement rattrapable derrière.
Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est d'autant plus difficile, je pense, quand on est dans la position d'un prestataire ou d'un expert.
Exactement.
Mais c'est plus difficile, je pense, que quand on est salarié. Ouais. Géraldine, tu partages les points de vue échangés ?
Ce qui est intéressant dans ce que partagent Rémi et Corinna, c'est... Je pense qu'à un point, c'est que la compétence technique, c'est un socle indispensable et que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui manquerait à cette compétence technique? Et ce dont on parle là, c'est la question de la posture. Moi, il me semble que la transformation digitale, c'est un sujet qui est transverse à l'entreprise et que ce qui est indispensable, c'est la culture technologique à tous les étages, si je peux le dire comme ça. Donc, il y a un vrai sujet d'acculturation et de formation des dirigeants. Parce que la question à laquelle répond Corinna, c'est comment est-ce que je développe cette approche de qu'on appelle le test and learn, qui ne vient pas du digital, mais qui est très propre à cette typologie de projet. Donc effectivement, on teste, on apprend de ses erreurs et on fait autrement sur des cycles très courts. Mais pour que ça, ce soit possible en interne pour les collaborateurs et pour les prestataires, il faut que ce soit aussi très clair pour les dirigeants et les commanditaires, pour qu'ils l'autorisent en fait, et c'est ça qui fait que ça devient possible. Pour moi, il y a un vrai sujet de posture et des collaborateurs, parce que effectivement, ben, on n'est plus développeur sur une techno en sachant qu'on fera ça pendant 20 ans. Donc il y a ce sujet d'apprentissage tout au long de la vie, cette capacité à collaborer et à communiquer, et puis cette posture nouvelle dans la façon d'appréhender des projets où on fait plus des roadmaps à 5 ans et on accepte que non seulement on a une marge d'erreur et qu'on va apprendre de ces erreurs-là et qu'on va s'adapter aussi à ce qui va venir, parce que la transformation digitale, c'est aussi une approche qui est très orientée client avec cette mise au centre de la valeur qu'on apporte au client et cette prise de conscience que les besoins clients changent aussi très très vite, d'autant plus vite qu'on est sur des nouvelles technologies qui évoluent très rapidement.
Et tu as parlé de culture technologique, qu'est-ce que tu mets dans cette culture ?
Alors, quand on parle de culture, c'est un sujet qui est assez vaste. Ça part du principe que la transformation digitale, elle va s'appuyer sur la culture d'entreprise et la connaissance métier. Et quand je parle là de culture technologique, c'est que pendant très longtemps, on avait des sujets IT qui étaient adressés par les équipes IT qui étaient fournisseurs de services en interne. Et les tenants et les aboutissants, ça ne regardait que les équipes IT. Le fait de travailler sur cette culture technologique, ça permet à chacun d'avoir une compréhension sur ce qui est possible, ce qui n'est pas, sur ce qui sera possible. Et ça va permettre aux dirigeants et aux différents acteurs et sponsors des projets de travailler sur des stratégies qui prennent en compte cette composante-là. Le certificat TDO de l'EM, il permet ça en fait. Il permet d'acquérir et de développer une culture technologique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont traités, dont les enjeux technologiques, qui ne fait pas des experts. Quand on sort, on n'est pas un expert de la transformation digitale, mais on a une bonne compréhension des enjeux, que ce soit sur les enjeux de transformation, la stratégie, mais aussi la technologie.
Alors peut-être qu'il serait intéressant à ce stade de parler des métiers de la transformation digitale. Le poste clé, on en parle beaucoup, c'est le CDO, donc Chief Digital Officer. Quel est le besoin actuel sur ce poste de coordinateur Superman de la transformation digitale? C'est quoi? C'est le nouveau titre des DSI auquel on a retranché la partie infrastructure. Quelle forme au pluriel revêt ce poste?
On parle du rôle de Chief Digital Officer. Peut-être pour éclairer la discussion, je voulais vous partager moi les postes clés qui nous sont demandés dans le cadre de missions, dans le cadre de la transformation digitale. Celui qui arrive en premier, c'est évidemment le digital manager ou le chief digital officer, qui va être le pilote de la transformation digitale d'une organisation. En deux, les demandes que l'on voit régulièrement sont les demandes autour des fonctions de data scientist, data analyst, head of data, chief data officer. En trois, on retrouve tout ce qui va être lié au produit, product owner, head of product, VP product. En quatre, on va retrouver tout ce qui est growth manager ou head of growth. En cinq, on va retrouver toutes les fonctions de CTO, de chief technology officer. En six, on va retrouver tout ce qui est lié au market, c'est-à-dire le marketing manager, le chief marketing officer, le chief marketing officer. En 7, on va retrouver tout ce qui est lié aux ventes, les sales operations, lead operations et CEO. En 8, on va retrouver tout ce qui est lié au traffic manager, head of acquisition, performance marketing manager. En 9, on va retrouver tout ce qui est lié au UX designer, au lead designer, VP design et UX. Et en 10, on va retrouver tout ce qui est lié au rôle de country manager, general manager ou CEO. Voilà, c'est les 10 fonctions clés sur lesquelles, en tout cas, nous sommes sollicités, nous, chez Grant Alexander, voilà, pour éclairer sur la partie des métiers.
Moi, pour rebondir, il me semble que c'est intéressant si on se recentre sur ce poste de CDO, de replacer sa mission. Quand tu parles de Superman de la transformation, il y a un enjeu. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la transformation digitale, en fait, elle est ni IT, ni marketing, elle est bien transverse à l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un qui va très bien connaître le métier, qui va connaître les processus de l'entreprise et qui va avoir les moyens d'opérer cette transformation, qui aura la légitimité pour aller voir les différentes équipes et faire avancer les sujets. C'est extrêmement important que ce soit quelqu'un qui dépende directement du CEO. Donc, est-ce que c'est un DSI? Je ne crois pas qu'on retranche la partie infrastructure au DSI. Ce qui est vrai, c'est que dans beaucoup de structures, le DSI a aussi cette casquette de CDO. On a aussi des CDO qui émergent du business Et typiquement, on avait avec nous une étudiante dans la promo TDO qui était patronne d'une business unit dans un groupe international qui a été nommée CDO et qui a fait ce parcours de TDO pour monter en compétences sur les enjeux de la transfo digitale et des enjeux technologiques. Et ça fonctionne aussi, donc je pense que ça dépend vraiment de la typologie de l'entreprise, de la taille de l'entreprise et de la culture de l'entreprise. Ce qui peut être, si moi je partage ma petite expérience, ce qui peut être compliqué pour un DSI à qui on donne la mission de CDO, qui est très motivant et très plaisant, l'enjeu, ça va être de se retrouver dans une double posture où d'un côté, on interagit avec d'autres directeurs sur une posture où on est fournisseur de services et de l'autre où on doit faire bouger et pouvoir coordonner aussi les équipes de façon transverse. Et ça, ça peut être compliqué.
À la fois gérer et impulser une dynamique, gérer ce que font habituellement les DSI, la sécurité, les infrastructures.
Oui, puis la transformation digitale, elle implique que l'existant continue à tourner. Et donc, beaucoup d'entreprises, le DSI a une image de celui qui dit non parce qu'il est aussi responsable du legacy, de tous les systèmes qui doivent continuer à tourner et à fonctionner. Et on ne travaille pas sur des projets digitaux comme sur le déploiement de SAP. Donc, c'est des enjeux, des temporalités qui sont complètement différentes. On peut aussi avoir un certain nombre de problématiques sur le SI. Si on attend d'avoir réglé ces problématiques-là avant d'engager des projets digitaux, peut-être il faut attendre 3 ans et dans 3 ans, ce sera trop tard. Donc, il faut pouvoir jouer avec cette double posture et ces enjeux qui sont différents. Et en fonction des entreprises, c'est plus ou moins facile et c'est plus ou moins possible.
Les postures sont différentes, les postures et les pratiques sont différentes selon si le CDO vient plutôt de l'IT ou du marketing. J'imagine que au-delà du contexte et du domaine, le profil de la personne doit avoir un impact sur sa capacité à mobiliser des projets sur ce sujet-là.
Oui, mais en fonction de l'entreprise, il y a aussi des DSI qui communiquent très bien avec le business, qui ont déjà cette légitimité-là, qui sont au COMEX ou au CODIR, et pour qui ce sera possible. C'est pour ça que c'est très lié à la culture d'entreprise et puis aux relations qui sont déjà instaurées et aux enjeux politiques existants, en fait.
Je te rejoins là sur les enjeux politiques existants, finalement, Géraldine, parce que j'ai connu finalement une ancienne CDE et elle me disait que ce poste, il est vraiment à double tranchant parce qu'en fait, quand un CDE, il arrive à l'entreprise, il faut bien que cette entreprise-là, elle soit prête à se transformer parce que elle me racontait notamment que ça lui arrivait des situations dans lesquelles elle avait l'impression de se retrouver finalement au milieu entre les dirigeants, les équipes qui voulaient pas bouger. Et en fait, c'était un petit peu la personne qui encaissait beaucoup de choses parce que finalement, il n'avait pas vraiment cette leadership et cette culture-là pour faire bouger les choses. Parce que selon moi et selon elle aussi, ces choses-là, il faut qu'elles soient établies un petit peu en amont avant l'existence de ce poste-là. Puisque s'ils existent, ça veut dire qu'ils sont prêts. Si on amène juste un chief digital officer pour s'occuper de tout, mais nous, on fait rien, ça peut vite aller droit dans le mur.
On peut se retrouver assez rapidement dans des situations où on est dans des injonctions paradoxales, où effectivement, il y a à la fois des dirigeants qui vont afficher des ambitions relativement hautes en termes de digital. Ils vont nommer quelqu'un, ils vont attendre des résultats relativement important en termes de ROI très rapidement et effectivement on n'a pas embarqué les équipes dans le projet, on n'a pas suffisamment clarifié finalement cette culture dont parlait Géraldine au sein de l'organisation et donc ça c'est relativement important, l'alignement stratégique de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise est capital pour la réussite d'un tel projet.
Donc, parmi les moyens, puisque Géraldine, tu évoquais les moyens, et là, vos trois discours parlent vraiment de ces préalables, en fait, d'une entreprise à être prête à opérer ces projets. Quels sont pour vous les préalables et les conditions les plus importantes pour que ce soit un terreau favorable à la réussite de projet?
Moi, je pense que le tout premier, c'est le fait d'avoir une implication réelle de la direction avec cette démarche de perte acceptable. Donc, c'est ce qu'on va permettre et ce qu'on va autoriser aux équipes. Et puis, le pouvoir d'aller solliciter des équipes, parce que le CDO, souvent, en fait, quand on se lance dans une transformation digitale, en fonction de la taille de l'entreprise, si on n'est pas un grand groupe, on va pas tout de suite monter une équipe de 6 personnes. Donc, ces personnes-là doivent jouer avec les autres départements. S'il n'y a pas une direction très claire des enjeux, des priorités et du pouvoir d'action de cette personne-là, au-delà des aspects budgétaires, si à chaque fois qu'elle vient solliciter une équipe, elle n'est pas dans les priorités, elle ne pourra pas jouer toute seule, en fait, simplement. Et moi, je peux partager aussi un exemple de... Moi, j'ai vécu cette situation d'être nommée sur cette mission et puis de me rendre compte que la même mission avait été, sur d'autres aspects, donnée à un directeur marketing. Et en fait, on a pu et on a su se poser tous les deux en se disant, en fait, on y arrivera parce qu'on travaillera ensemble. Et ça a été un succès. Sauf que cette coordination-là, elle n'est pas si simple que ça. Et moi, j'accompagne aujourd'hui des entreprises sur cette coordination et cette capacité à travailler ensemble au-delà des enjeux politiques.
Ça, c'est compliqué.
Et ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a que la direction qui peut insuffler ça.
Et c'est aussi une culture d'entreprise, d'avoir la culture orientée utilisateur, orientée produit, orientée service, qui est moins courante en France que dans certains pays, notamment anglo-saxons.
Oui, mais c'est aussi une autre façon de penser la stratégie, en fait. Parce qu'on parle de stratégie digitale, en fait, il n'y a pas de stratégie et de stratégie digitale. La stratégie, elle est aussi digitale maintenant. En tout cas, dans une entreprise qui veut prendre ce chemin-là.
Et Géraldine, tu l'avais déjà énoncé un petit peu dans tes propos précédemment, qu'il faut que les collaborateurs, ils connaissent les objets et les aboutissants finalement de cette communication-là, des actions finalement et de la vision qui est portée par le top management. Et finalement, ces actions-là, elles passent par une communication finalement qui est ascendante mais descendante aussi. Parce que descendant dans le sens, le top management, il va passer les informations nécessaires aux collaborateurs, mais ascendante, il faut aussi que les collaborateurs, ils soient capables de dire, bah, dans mon processus, je suis ralenti par tel problème, ou mon client, il a tel problème qu'on pourrait potentiellement résoudre. Donc c'est la communication, selon moi, c'est vraiment indispensable dans un processus de transformation.
Et Corinna, c'est super intéressant. Comment on met en place, on optimise la communication ascendante pour justement faire remonter ces besoins, ces usages?
Par exemple, on peut créer soit des ateliers, soit on peut créer mettre en place des outils collaboratifs afin de recueillir finalement ces idées ou ces apports de la part des collaborateurs. Ou sinon, même des questionnaires, pourquoi pas. C'est simple, ça peut être très efficace s'ils sont bien construits. Et même, je pense qu'il a aussi cette liberté-là de se dire, est-ce que le collaborateur qui voit que dans son métier ou dans son travail ou dans ce qu'il fait quotidiennement, est-ce qu'il, s'il a une chose qui marche pas, il faut qu'il ait cette liberté finalement de se dire, bah, moi je peux aller remonter cette information un petit peu plus haut. Pour qu'il n'ait pas peur pour qu'il ne se dise pas « non, mais ça va servir à rien finalement ». De toute façon, c'est comme ça que ça a marché, c'est comme ça que ça va marcher. Il faut qu'il ait cet instant-là, mais c'est aussi une culture d'entreprise de se dire bah, « voilà, j'ai une difficulté, mon client il a une difficulté, faut que je le fasse remonter et faut que je le fasse remonter sans avoir des sentiments négatifs liés à cette conversation-là. Parce que c'est une conversation finalement qui est portée.
Et concrètement, comment on fait ça? On travaille sur la posture des managers. Je pense que Rémi, il est probablement très en contact de ça parce que c'est un enjeu très fort chez les managers de transition. Il y a cette posture de manager qui va être clé dans ce qui permet à ces équipes de poser et de leurs craintes et de leur succès et de leurs difficultés pour pouvoir aussi manager ces managers, donc communiquer, faire remonter et circuler cette information-là. Et cette notion, quand on parle de collaboration dans les nouvelles compétences, c'est vraiment ça aussi dont on parle.
C'est vrai que souvent, dans la transformation, la problématique du dirigeant, c'est de se dire comment je vais embarquer mes équipes, parce que c'est une question, et encore plus au sortir des étapes de confinement, puisqu'on voit bien que peut-être la température et le climat social est différent dans différentes, en fonction de l'entreprise, du secteur, et puis de la manière dont la crise a pu être supportée. La question des collaborateurs, souvent dans ces transformations, c'est qu'est-ce que moi j'y gagne en tant qu'individu. Et voilà, pour partager, on a nous développé un outil qui permet de faire un scanner en fait de l'organisation en un temps assez record. C'est-à-dire qu'on est sur un outil digital qui permet à la fois de scanner l'organisation individu par individu, mais aussi de travailler sur l'élaboration de propositions dans le cadre de plans de transformation. Et l'intérêt de cet outil, c'est pas de la promotion, mais c'est que du coup, on est à la fois sur la consultation, mais aussi sur la construction du plan de transformation et sur le fait d'associer les parties prenantes de l'entreprise à ce sujet. Sur la question de la posture, nous, c'est capital. Je dis ça parfois pour plaisanter, mais en management de transition, on peut trouver, ou même en chasse, on peut trouver des très beaux avions de chasse qui vont avoir effectivement des parcours en or. Mais cette question de la posture, de ce que moi j'appelle le leadership positif, la capacité à embarquer des équipes dans des projets de transformation, et ben ça, c'est une posture qui est recherchée. Et pour nous, la posture, elle est déterminante dans la sélection de profils de managers de transition. Cette question d'agilité, d'être en capacité d'obtenir des résultats rapidement, mais d'avoir ce leadership qui va permettre d'embarquer les équipes pour atteindre des objectifs.
Est-ce que quelqu'un qui a vraiment qui arrive et qui ou alors qui est déjà présent dans l'entreprise, mais qui prend une nouvelle dimension dans un poste de management de transition peut arriver à impulser une dynamique qui va permettre d'ouvrir des portes, y compris au niveau d'une direction qui est soit frileuse ou qui ne comprend pas les enjeux ou qui...
Il y a deux éléments qui vont aider dans ce cadre-là. C'est que quand on est sollicité pour du management de transition, on fonctionne toujours avec un principe de surdimensionnement. Donc ça veut dire que la personne qui va faire sur un périmètre, elle a déjà fait sur un périmètre beaucoup plus gros et plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'elle va être en capacité de reproduire les facteurs clés de succès qui ont été importants dans l'élaboration et la conduite de projet. Et puis, en même temps, c'est un expert. C'est un expert d'une fonction. C'est un chief digital officer expérimenté. Et du coup, c'est cette légitimité qui va lui permettre à la fois d'embarquer les équipes et d'embarquer un COMEX sur ces sujets de transformation.
Je pense qu'il y a un sujet aussi, il y a une double composante, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose que d'agir comme un manager de transition et d'avoir été nommé en interne. Et le fait d'avoir des externes, c'est un vrai levier pour faire bouger un COMEX et puis pour engager l'adhésion des équipes. Moi, je fais partie des gens qui croient fort que la transformation, elle s'appuie sur les compétences métiers avant tout, et que c'est extrêmement important d'engager les équipes et que ce soit porté par quelqu'un en interne. Par contre, le fait d'avoir un externe qui vient aider, que ce soit un cabinet, que ce soit un consultant ou que ce soit un manager de transition, ça permet toujours d'avoir un pas de côté et ça permet de faire entendre des choses à la direction parfois qui seraient portées différemment ou qui seraient pas reçues de la même façon si c'était porté par une équipe interne seulement.
Après, ce qui est important dans ce que tu dis, Géraldine, c'est que le danger parfois d'un intervenant externe, c'est effectivement qu'il vient, il fait sa prestation et il repart. Et cette question de l'ancrage, nous, on a finalement beaucoup de demandes de la part de nos clients qui sont « il faut conduire tel projet, mais en même temps, il faut faire monter en compétences mes équipes ». Et donc, du coup, cette notion de transmission, de faire que finalement, quand l'expert il part, les équipes, elles sont en capacité d'être autonomes et elles ont voilà, acquis véritablement une nouvelle expertise. Ça, c'est primordial parce que l'objectif, c'est que quand l'expert y parte, ben, la structure elle puisse continuer dans de bonnes conditions. Peut-être il y a un élément qu'on n'a pas abordé, qui est la question aussi de on voit dans les profils, on parle de compétences. Quand on parle de compétences, on parle de formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que dans les profils qui sont recherchés, les grandes écoles, elles font toujours recette. Qu'on soit sur des écoles d'ingénieurs ou des business schools, c'est quand même relativement les profils qui sont recherchés dans cet écosystème. Et c'est vrai que parfois, les grosses structures ont un handicap par rapport aux startups et aux scale-up parce que auparavant, on va dire, il y a 5 ans, il y a peut-être 7 ans, 8 ans, les jeunes voulaient rentrer dans une grande entreprise parce qu'elle permettait d'avoir une renommée et puis une certaine sécurité, voilà, une image. Aujourd'hui, ces jeunes, ils choisissent plutôt de travailler dans le monde du digital, dans des structures qui sont beaucoup plus petites, où finalement leur capacité d'action, elle va être beaucoup plus visible. Et voilà, donc ça c'est quand même des éléments qui sont importants à notifier. Après 10 ans d'expérience, c'est vrai que la question de la formation, elle s'efface au profit de l'expérience et des résultats qui ont été obtenus dans des postes.
Alors Géraldine, toi tu disais quand on a préparé l'échange qu'il y avait parfois des déceptions de la part de certains profils dans les plus petites structures. Du coup, j'imagine que qu'on soit prestataire ou salarié pour une petite entreprise ou dans un grand groupe, les logiques sont différentes, les dynamiques sont différentes, les métiers liés à ces sujets-là doivent être vraiment très très différents. Vous voyez, vous, cette segmentation, cette coupure, ou bien...
Personnellement, je pense, et je parle là de mon expérience, travailler dans le digital dans une petite entreprise au début, c'est selon moi c'est le mieux parce que on apprend beaucoup de choses, on touche à beaucoup de choses et ça nous permet de monter en compétences assez rapidement et ça nous permet aussi d'appliquer, d'apporter de nouvelles, de nouveautés, d'être force de proposition. Je pense que dans une grande entreprise, cette chose-là, elle est légèrement plus difficile, puisque finalement, il y a plusieurs niveaux de décision. Donc, les jeunes diplômés, finalement, ils arrivent pas finalement à proposer leurs choses, leurs idées, et finalement, même si ils sont proposés, ils ont l'impression qu'elles sont pas mises en place, mais parce que il a finalement beaucoup d'étages dans la prise de décision et c'est beaucoup plus long. Donc, en quelque sorte, je pense que dans une grande entreprise, même si on a tous les financements, parce que la transformation digitale, c'est aussi une question du budget, on a tendance de croire finalement que la transformation digitale elle s'opère plus facilement dans les grandes structures parce qu'il a plus de budget. À mon avis, c'est plus simple de la mettre en place dans une petite structure. Parce que la prise des décisions, elle est vraiment plus rapide que dans une grande structure.
Et quand tu dis petite structure, tu penses à start-up ou pas forcément ?
Pas forcément à start-up, même à une entreprise familiale qui a 50 collaborateurs. Je pense que c'est plus facile de mettre en place un système afin de digitaliser finalement les métiers des personnes plutôt que dans un grand groupe qui a 3000 collaborateurs finalement. Parce que déjà, comme j'ai dit, prise des décisions moins complexes, il a moins de départements qui sont moins silotés entre eux, du coup la communication elle est plus fluide, il a plus la proximité finalement entre les différents collaborateurs. Donc, ils se connaissent potentiellement même personnellement. Donc, ils peuvent se passer les informations de manière plus fluide et spontanée. Et parfois, dans des petites structures comme ça, ça peut arriver qu'on prend une décision. J'exagère peut-être un petit peu, mais même à un café, quoi.
C'est important ce que dit Corina. En fait, il y a deux éléments. Quand on veut attirer des talents et qu'on est un grand groupe, il va falloir jouer sur la puissance de la marque, Il va falloir jouer sur la culture, sur les avantages. Mais il faut que ces entreprises, elles puissent bien préparer l'arrivée de ces jeunes talents, en se disant que les choses vont être différentes, que peut-être des décisions vont se prendre un petit peu différemment et que ça va bousculer un peu. C'est vrai que parfois, quand des jeunes talents peuvent être intéressés sur des postes digitaux dans ces grandes structures, on a déjà des processus de prise de décision, y compris en termes de recrutement, qui parfois dissuadent directement les jeunes. Donc ça, c'est relativement important. Sur la partie des start-up ou des scale-up, il y a quand même une concurrence qui est exacerbée. Il y a quelque part une guerre des talents sur le sujet. Et aujourd'hui, dans ce que je perçois, c'est que les jeunes, ils ont aussi besoin de se projeter, de pouvoir travailler dans un environnement qui est à la fois structurant, mais qui leur laisse de la liberté, et sur lequel ils vont pouvoir avoir quelque part une influence sur la mission et les visions. Et alors, effectivement, il y a ces évolutions et cette concurrence, elle fait que il y a une inflation des salaires dans ce secteur, mais en même temps, l'argent n'est pas la seule motivation. On voit que les jeunes, ils veulent aussi travailler dans une entreprise qui a une vision et qui a un impact positif sur la société. Et ça, c'est à mon avis relativement important à prendre en compte pour ces structures.
Et les jeunes, ils veulent aussi une certaine liberté et flexibilité finalement dans leurs horaires de travail, dans le poste de travail. Je parle de l'expérience et encore plus, je pense que cette tendance, elle va s'accentuer finalement avec le Covid ou la Covid. C'est certain finalement.
En ayant conscience que ça, c'est probablement peu satisfaisant d'entendre tout le temps que ça dépend, mais je pense pas qu'on puisse dire que les process de décision sont plus lourds dans une grosse entreprise que dans une PME familiale. Je pense que ça dépend vraiment de la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là. Et il y a des grands groupes qui sont de vrais exemples sur la transformation digitale. Et pourquoi? Parce que ils ont eu les moyens de se poser la question de l'innovation et de dédier des équipes sur ces sujets-là il y a 5 ans. Là où sur des PME plus petites, soit le dirigeant a vraiment une vision qui porte et qui va impulser à ses équipes, soit il fait le pas du digital quand il est un petit peu au pied du mur, et c'est ce qui se passe depuis un an. Et l'intégration de jeunes diplômés dans ces structures dépend vraiment de cette maturité sur ces sujets. Il y a des grands groupes sur lesquels les équipes sont déjà constituées avec une vision très claire des enjeux du digital et sur lesquels on a délégué un certain nombre de décisions et une autonomie au niveau des managers et des équipes et qu'on peut ne pas du tout trouver sur des PME de 50 personnes en fonction de la posture du dirigeant. Ce qui fait que là où je rejoins Rémi et Corinna, c'est que les derniers recrutements que j'ai faits ou les jeunes que j'accompagne sur des préparations d'entretien, il y a ce besoin de contribuer et ce besoin de sens et de mission. Les managers sont pas nécessairement prêts à intégrer ces postures d'étudiants qui sortent de l'école. Et c'est là qu'on retrouve des déceptions. Et la déception dont moi je parlais quand on a préparé, c'était aussi de dire que dans certaines... Et ça recoupe ce que disait Rémi tout à l'heure. On a parfois des chefs d'entreprise qui affichent de grandes ambitions en termes de digital, qui ouvrent les recrutements pour ouvrir une équipe, pour recruter une équipe. Et puis, quand il s'agit de dérouler du projet, les priorités changent parce que la priorité, c'est la production et l'opérationnel. Parce qu'il y a aussi un pilotage sur les coûts et sur la rentabilité. Et c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver avoir recruté un chef de projet digital qui va finalement pendant des mois faire la chefferie de projet mais pas du tout toucher au digital. Et la frustration, elle peut aussi émerger de ces situations-là. Ça fait écho, Rémi et Corinna, ou...
Je suis pleinement d'accord.
Pareil, on est d'accord sur ça.
Non, mais c'est vrai que moi, je me suis entretenu avec des grandes entreprises et puis avec des clients. Et c'est vrai qu'on a quand même des beaux succès. Alors, c'est toujours difficile de citer des noms, mais dans lequel on voit, enfin, j'étais moi en échange cette semaine avec Schneider Electric, qui a vraiment switché dans son modèle initial, et aujourd'hui, ce sont des Schneider Electric est un acteur du digital qui est pleinement dans une approche d'usage de services, à la fois sur le plan industriel et sur le plan des commodités. Et franchement, c'est une entreprise de 137 000 personnes, mais ils ont fait ce virage digital et ils ont intégré des problématiques en termes de management qui permettent d'attirer des jeunes. Donc je rejoins Géraldine quand elle dit faut se méfier. Moi, je me méfie beaucoup des étiquettes qu'on colle sur... C'est pareil, l'idée qu'il faudrait qu'on ait un baby-foot, des fruits et quelques canapés sympas pour que, du coup, on puisse attirer des jeunes. Enfin, voilà, il faut aussi dépasser cette question-là. Si on est uniquement sur le vernis, ça ne fonctionne pas.
Après, pour revenir sur la question de la différence entre la grande entreprise et la PME, et ça fait écho à ce que disait Corinna tout à l'heure, c'est que peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que dans une grande entreprise, on aura beaucoup plus de spécialistes et que la mission qu'on donnera au sein d'une PME, elle sera nécessairement plus polyvalente. Et ça va changer aussi l'expérience qui sera développée par les profils d'un côté ou de l'autre.
Et les profils plus jeunes, on a parlé de sens, ils sont en attente de sens, selon vous trois. Et si oui, lequel ? Quel sens ?
Sens de comprendre qu'est-ce qu'on fait et dans quel but on le fait, et est-ce que c'est en accord aussi avec nos convictions. Je pense que c'est une question de plus en plus importante. C'est vraiment comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et est-ce que ce qu'on fait aura un impact positif finalement dans le monde. Et je pense que oui, l'argent, ça sera toujours important. Il faut vivre. Mais il y a des gens, finalement, qui préfèrent une entreprise plutôt qu'une autre parce qu'ils retrouvent le sens, parce qu'ils retrouvent de la bienveillance, parce qu'ils retrouvent, finalement, des collègues qui sont disponibles, qui le font grandir, parce qu'ils retrouvent des missions... où ils peuvent s'épanouir. Donc c'est tout un complexe finalement.
J'ai rencontré des dirigeants lyonnais qui m'ont dit être vraiment surpris de la manière dont les choses avaient évolué, puisque effectivement avant ils avaient une posture plutôt haute dans les entretiens de recrutement ils questionnaient, ils vérifiaient. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quelque part les jeunes qui posent les questions dans les entretiens en disant vous en êtes où sur le ESG, sur la RSE, quel est le bilan carbone de nos activités, comment je vais pouvoir travailler de manière flexible dans ce que vous me proposez, comment je vais pouvoir m'inscrire dans votre projet. Et finalement, ça, c'est un élément qui est vraiment... c'est lié au digital et aux jeunes, mais ça, c'est un élément qui est capital.
Après, on parle beaucoup des jeunes, mais dans les acteurs du digital, il y a aussi des gens qui sont tombés dedans, comme tu dis, Sylvain, représentant Rémi, mais qui sont plus âgés, qui sont plutôt au quadra et qui ont commencé à travailler sur ces sujets-là et qui ont appris en faisant il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a aussi des gens qui arrivent sur le digital maintenant par la force des choses. Et ce qui a... La question du sens, moi, des demandes qu'on reçoit en termes d'accompagnement individuel chez Formutile, il y a la question du sens, elle, depuis un an, elle devient aussi au cœur des préoccupations des salariés des quadras, quoi, pas que, mais en tout cas des salariés expérimentés. Et moi, il me semble que ces sujets de transformation digitale, ils viennent aussi répondre à cette question du sens, parce qu'on est davantage orienté sur le client, parce qu'il y a ce sujet de cet enjeu de réactivité et de coller à la réalité d'un marché et des mouvements sociétaux. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui est en train de s'opérer et qui est aussi intéressant quand on parle de ce sujet-là.
Et donc du sens pour les différents profils pour travailler dans ces domaines-là, et peut-être on peut en faire le dernier thème de notre échange. Est-ce qu'il existe des profils plus adaptés à la transformation digitale? Moi, quand j'y pense, je pense suite à des profils plutôt orientés organisationnels, chefs de projet. Rémi, tu parlais de data tout au début, donc il y a aussi cette spécialisation ingénieur, plutôt maths. Alors Thomas Gauthier, qui était notre invité dans le précédent épisode, lui nous parlait du rôle des imaginaires, du récit dans la transformation digitale. Si je me mets à la place d'un étudiant, est-ce que des profils littéraires, artistiques peuvent réussir dans ce domaine-là, selon vous? Qu'on fait un bac L ou de la philo, des lettres modernes en bachelor?
Quand on travaille en Angleterre ou aux États-Unis, ce qui va compter, c'est finalement les études qu'on a pu réaliser. Et après, on peut avoir fait un master en histoire et travailler dans le digital. En France, je crois qu'on est encore un peu plus fermé sur ces questions-là. Effectivement, le critère de sélection, ça va être est-ce que tu as fait une école d'ingé ou est-ce que tu as fait une business school pour pouvoir travailler dans ce secteur-là. Il faut être quand même assez clair sur ce sujet de sélection que l'on voit de la part... On reste encore, même s'il y a de l'ouverture sur l'expérience, on reste encore marqué par les diplômes et puis par les écoles. Il faut être honnête avec ça.
Et ça, c'est pas en train de changer? Ou lentement, selon toi?
Pour moi, ça change trop lentement. Mais ça va venir, mais ça change trop lentement parce que, en fait, on a parfois des profils qui sont totalement atypiques. Moi, je suis un produit totalement atypique. J'ai commencé par un DUT de génie mécanique. J'ai fait Sciences Po. Et puis, j'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, je suis dans un cabinet de chasse de tête. Et j'assume très bien ce rôle et ce profil totalement atypique. Et je pense que quand on a un profil atypique, on est en capacité d'être très agile, de comprendre plein d'univers et de pouvoir interagir avec plein de parties prenantes. Donc, pour moi, c'est une force.
Ben, peut-être pour compléter, moi j'avais envie de partager un échange que j'ai eu il y a quelques semaines avec une lycéenne qui était sur le point de choisir son orientation, en tout cas qui se questionnait sur sa filière, et elle me contactait en tant que conscient DSI en me disant « moi je veux avoir un métier porteur et je veux travailler dans la data et dans la transformation digitale, quelle filière il faut que je choisisse ?» Il est bien difficile aujourd'hui de pouvoir dire quels seront les métiers de demain. Donc, et ça rejoint ce que dit Rémi, il y a quelque chose dont le choix de sa filière, de travailler sur ses appétences et ses motivations fortes et d'être capable de construire une stratégie. Et c'est ce qu'on dit depuis qu'on échange, il y a cette idée que probablement on changera de métier plusieurs fois. Et que l'enjeu, c'est plutôt de se mettre dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie. Alors après, probablement que dans les métiers de la data, on va trouver des profils qui seront plus scientifiques. En même temps, quand on dit que la transformation digitale, elle touche tous les métiers de l'entreprise, quand on est sur des profils qui produisent du contenu sur les réseaux, qui construisent des stratégies de marketing digital, possiblement on peut être sur des profils qui sont plus littéraires. Donc c'est en train de changer probablement parce que on prend conscience que le champ de la transfo digitale, il est large et qui touche tous les métiers de l'entreprise. Peut-être que ça, c'est une lecture de ce qui a pu être dit pendant le dernier épisode.
Ouais, et je suis complètement d'accord avec vous deux, dans le sens où, selon moi, les profils littéraires et artistiques, ils sont moins présents finalement dans la transformation digitale, mais selon moi, ils sont bien nécessaires parce que potentiellement, ils ont des nouvelles choses à apporter à l'entreprise et des nouvelles manières de voir finalement une problématique ou un concept. Et d'aborder finalement les choses. Et finalement, dans la résolution des certains problèmes, on a besoin des personnes différentes. Et ça, les grands groupes, ils l'ont bien compris finalement. Puisque les entreprises, je trouve qu'aujourd'hui, ils cherchent de la diversité au sein de leurs équipes. Et finalement, ils le mettent bien en avant, même au niveau des projets, des propals qu'ils vont faire à leurs clients, que leur équipe, elle est diversifiée, qu'il a différents types de profils, avec différents backgrounds, avec différents types d'expertise. Voilà, donc je pense que c'est lent, mais c'est important d'avoir des profils qui viennent même du littéraire ou de l'artistique.
Pour compléter, enfin, ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est que au-delà des filières, qui est un sujet important quand on parle à des étudiants qui ont besoin de se projeter, j'entends, mais je pense qu'il y a un sujet autour des profils, en fait, qu'on retrouve en entreprise. Moi, je travaille avec un outil qui s'appelle ProcessCom, qui vient travailler sur des profils et des types de comportements. Et ce qu'est en train d'évoquer Corinna, c'est aussi le besoin d'aller chercher des profils qui vont fonctionner un petit peu différemment. Et quand on parle d'innovation, on va parler de créativité, on va parler d'être force de proposition. Toutes les soft skills qui ont été évoquées depuis le début de notre discussion, elles viennent chercher des comportements qui sont différents de ce qu'on recherchait à une époque quand on avait besoin d'avoir des gens qui récupéraient une mission et qui allaient dérouler un certain nombre de tâches avec des processus qui étaient très établis. Et ça, probablement que ça change toujours trop lentement.
Ça devient une réalité dans beaucoup d'entreprises.
C'est dans ce sens-là que nous, on a développé un outil. Mais parce qu'effectivement, on voit que ce qui est important pour nos clients aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir recruter des compétences, de pouvoir recruter des savoir-être, des soft skills. Mais c'est aussi très important de pouvoir être en capacité de recruter des personnes qui vont être en capacité de se développer. Et ça, c'est ce que nous, on a pu matérialiser dans une démarche qui s'appelle Athlete Thinking, qui vise justement à développer en fait les différentes composantes du mental des individus avec l'objectif de trouver leur zone de confort, le flow, pour avoir une performance optimale. Et cette démarche, d'identifier ces forces mentales dominantes et les leviers, elle est particulièrement adaptée au secteur du digital, où on va effectivement demander à mobiliser les différentes forces mentales pour se dépasser. Et donc ça, c'est particulièrement adapté quand on a besoin de se dépasser et de trouver aussi du plaisir dans son travail, puisqu'il faut parler de plaisir au travail, c'est important.
Athlete Thinking, c'est s'inspirer du modèle mental, du mindset des athlètes de haut niveau, c'est un peu ça?
Exactement. En fait, c'est une démarche qui permet de se mesurer, entre guillemets, sur les 9 compétences mentales, que ce soit l'acceptation, la connaissance de soi, la confiance, la concentration, la maîtrise de son environnement, le travail avec son équipe, la détermination, les émotions et ses ressources. Et effectivement, l'idée, c'est de se dire, on a tous des atouts, on a tous des points forts dans nos profils, mais on sait qu'on a des dimensions dans lesquelles nous pouvons être en capacité de nous développer. Et plus on va pouvoir se développer sur ces 9 compétences mentales, plus finalement on va pouvoir être en capacité d'avoir de la performance managériale. Et ça, c'est important aujourd'hui pour nos clients, et c'est une démarche à laquelle les candidats adhèrent également.
Mais c'est vrai que les sportifs de haut niveau, moi je suis toujours frappé de voir comment ils ont un recul, une analyse sur leur parcours, sur leur émotionnel. Ils ont une intelligence émotionnelle qui est extraordinaire et souvent et qui peut sans doute beaucoup apporter dans le monde de l'entreprise et dans la transformation digitale. Je vous propose de conclure là-dessus. Alors on changera de métier plusieurs fois, comme tu disais, Géraldine, et on aura peut-être tous des profils atypiques comme Rémi demain. Merci à vous trois, Géraldine, Corinna et Rémi, pour cet échange qui a été riche et qui, j'espère, aura apporté aux auditeurs des éléments de réflexion et d'action. Je rappelle aux auditeurs les programmes dédiés à la transformation digitale à EM Lyon Business School, le certificat transformation digitale des organisations qui forme les dirigeants et experts sur ce sujet en 17 jours, et le master spécialisé transformation digitale, marketing et stratégie qu'a suivi Corinna, qui permet en 13 mois de devenir un acteur clé dans ce domaine. Merci aussi aux autres experts qui sont intervenus dans ce podcast, Philippe Zilberzan, Romain Wildman, Thierry Nadizic et Thomas Gauthier. Merci aussi à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet épisode était le dernier de la saison sur ce thème de la transformation digitale. N'hésitez pas à nous donner en commentaire des idées de sujets pour la saison prochaine que vous souhaiteriez voir aborder. D'ici là, je vous souhaite un bel et agréable été et vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes.